Chapitre 7. Ce n'était point l'habitude de Nicétas d'être affable pour les domestiques de Chambray, hautain au contraire et dédaigneux avec affectation, à ce point que ceux qui avaient de l'autorité dans la maison s'étaient entendus pour ne pas le servir. Lorsqu'on devait le conduire à la gare, c'était le second cocher que déléguait le premier. Lorsqu'il arrivait, les valets de pied se sauvaient pour ne pas lui ouvrir la porte, et à table, le maître d'hôtel le livrait dédaigneusement aux mains d'un subalterne. Mais ce soir-là, lorsqu'il passa devant le pavillon du concierge, il s'arrêta pour échanger quelques mots avec ce fonctionnaire qui soupait la fenêtre ouverte en compagnie de sa femme et de ses enfants. « Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du temps, je vous prie ?»« Le temps ? Ah oui, le temps, fameux pour les biens de la terre. Je veux dire, est-ce que vous croyez que je pourrais arriver à la station sans pluie ?» Oh, pour sûr ! Il salua poliment et sortit, tandis que le concierge et sa femme se regardaient en se demandant ce qu'il pouvait y avoir sous ces questions peu naturelles. Il était parti d'un pas pressé, en homme qui a hâte d'arriver, mais il ne tarda pas à ralentir sa marche. Longeant le parc, il s'était arrêté à un endroit où le mur abattu sur une vingtaine de mètres était remplacé par un simple grillage en fil de fer tendu sur des poteaux. Suffisant pour empêcher la sortie des lièvres, des chevreuils et des daims, ce grillage n'était qu'une défense insignifiante pour quelqu'un qui voudrait sauter par-dessus en s'aidant des tas de moellons préparés de chaque côté des fondations commencées. À cet endroit, il n'y avait pas de maison le long de la route vis-à-vis le mur, seulement des champs et des prairies à cette heure désert. Il regarda autour de lui et, ne voyant personne, n'entendant aucun bruit, il enjamba par-dessus le grillage. Il était dans le parc, d'où il venait de sortir, en prenant soin de faire constater sa sortie par le concierge. Rapidement, il se dirigea vers le château, mais en s'arrêtant de temps en temps pour écouter et regarder. Il ne tarda pas à entrer dans les jardins et bientôt à arriver au berceau d'If où, dans l'après-midi, il s'était assis. Mais à ce moment, il ne pouvait plus être question de reprendre cette place où il se trouverait en vue du château. Aussi s'embusqua-t-il derrière, ne risquant qu'un œil par un trou qui s'était fait dans ce mur de verdure. Autour de lui, tout était silencieux. Depuis longtemps, les jardiniers étaient rentrés chez eux. Et c'était dans une partie opposée du parc que Ghislaine et Lady Cappadoce avaient dirigé leur promenade. Il n'avait donc pas à craindre que personne ne vînt le déranger. À ce moment même, une femme de chambre parut à l'une des fenêtres de l'appartement de Ghislaine et, tirant les volets, elle les ferma. Puis elle passa une seconde et ainsi successivement pour toutes, une seule exceptée qu'elle laissa ouverte en se contentant de rapprocher les volets de façon à ce que l'air frais du dehors pénétrât à l'intérieur. De derrière son abri, il voyait le bonnet blanc passer sur le fond sombre de la chambre et, de temps en temps, il entendait grincer sur leurs tringles de fer les lourds rideaux qu'elle manœuvrait. Le ménage dura assez longtemps, puis une porte claqua et rien ne troubla plus le silence. Son travail fini, la femme de chambre était partie pour ne plus revenir et maintenant, cette partie du château se trouvait abandonnée, le personnel domestique dînant tranquillement à l'office dans l'aile opposée. La nuit se serait faite depuis quelques instants déjà, si la lune, en se levant, n'avait pas ajouté sa lumière frisante aux dernières lueurs du couchant, mais cependant, les ombres commençaient à être assez confuses pour que Nicétas pût ne pas craindre d'être aperçu si, par extraordinaire, quelqu'un regardait de ce côté. Sortant de derrière sa cachette, il vint s'asseoir dans le berceau, où il resta près de 10 minutes, se levant brusquement, se rasseyant aussitôt en homme qui balance une résolution, prise, abandonnée et reprise. Enfin, quittant le berceau et se baissant de manière à ce que sa tête ne dépassât point les arbustes et les plantes des plates-bandes, marchant sur les bordures gazonnées pour que son pas ne criât pas sur le gravier, il se dirigea vers la fenêtre restée ouverte. Son appui n'étant pas à plus de 1,50 m du sol, il escalada facilement et se trouva dans la chambre de Ghislaine. Il respira et regarda autour de lui. Bien des fois, avant cette soirée, il avait examiné en se promenant dans le jardin, et il connaissait sa disposition comme son ameublement. ses 6 fenêtres sur 3 faces, le lit à baldaquin dont le chevet était adossé au mur, le paravent à 6 feuilles, ses grands fauteuils en bois doré, mais dans la demi-obscurité où la plongée, les volets et les rideaux fermés, il fut un moment à se retrouver. Peu à peu, cependant, et successivement, chaque chose se fit distincte en prenant sa forme réelle. Alors, allant à une des fenêtres fermées, il souleva un des rideaux et reconnut que, comme il le présumait, l'embrasure était assez profonde pour qu'on pût se cacher là en toute sûreté. Par leur poids et leur épaisseur, ces rideaux en velours ciselé formaient une sorte de mur, et il n'était pas vraisemblable que, quand Gisèle rentrerait, elle irait en petite fille peureuse soulever chaque rideau pour voir si un voleur n'était pas embusqué derrière. Maintenant que la première partie de son plan avait réussi, il n'avait qu'à réfléchir à l'exécution de la seconde, et il était bien aise d'avoir quelques instants à lui avant le retour de Mademoiselle de Chambray pour se calmer. Mais ce ne fut pas le calme qui lui vint. À mesure que le temps s'écoulait, son agitation enfiévrait le dévorait, et par moments, étouffé derrière les rideaux, il sentait la sueur qui coulait de son visage lui tomber sur les mains. Enfin, il entendit une porte s'ouvrir et une lueur, glissant par les deux côtés des rideaux, éclaira sa cachette. Le bruit des pas lui dit que Ghislaine n'était pas seule, comme il avait imaginé qu'elle le serait. Qui l'accompagnait ? Une femme de chambre ou Lady Cappadoce ? Faut-il fermer la fenêtre ? C'était une femme de chambre. Non, répondit Ghislaine, je la fermerai plus tard. « Mademoiselle n'a pas besoin de moi ?»« Pas du tout. » La femme de chambre se retira en fermant la porte. Presque aussitôt, la lampe fut éteinte et Ghislaine s'assit dans un fauteuil en face de la fenêtre restée ouverte. Il attendit quelques instants que le silence se fût établi, puis, écartant doucement l'un des rideaux, il fit 3 ou 4 pas en avant. « C'est vous, Jeanne ?» demanda Ghislaine, n'admettant pas la possibilité qu'une autre personne que sa femme de chambre fût là. « Non, mademoiselle !» Elle poussa un cri en se levant d'un bond. « Ne craignez rien !» Il s'était avancé et, dans le cadre clair de la fenêtre, il la voyait haletante. « N'approchez pas, j'appelle !»« Vous n'avez rien à craindre de moi, rien, je le jure !»« Pourquoi êtes-vous ici? Comment ?» Il faut que je vous parle, il y va de ma vie. » Elle avait eu le temps de se remettre et, le premier moment d'affolement passé, de reprendre courage. « Je n'ai rien à entendre ici, en ce moment. » Instinctivement et sans s'en rendre compte, elle parlait d'une voix étouffée, peut-être parce que lui-même avait pris ce ton. « Partez, monsieur, demain je vous écouterai. » Comme il ne bougeait pas et la regardait avec des yeux ardents qu'elle voyait briller dans l'ombre car il faisait face à la fenêtre, elle continua. « Me forcerez-vous à sonner ? » ?»« Vous ne sonnerez pas. » »« Qui m'en empêchera ? » ?»« Vous-même, la réflexion, le souci de votre réputation. Que penserait-on, que dirait-on si, répondant à votre coup de sonnette, on nous trouvait en tête-à-tête, la lampe éteinte, dans votre chambre ? » Cette pensée ne lui était pas venue à l'esprit. C'était vrai, que dirait-on, jusqu'où irait le scandale? C'était le calme, le sang-froid qu'elle devait appeler seule à son aide. « Alors, monsieur, parlez, que me voulez-vous ? » Il avait été un moment démonté, mais, en voyant ce changement d'attitude, l'assurance lui revint et il fit encore quelques pas vers elle. « Vous dire ce que mes regards vous ont répété 100 fois, que je vous aime ?» « Que je vous aime !» Éperdue, elle jeta ses 2 mains devant son visage, mais tout de suite, elle les abaissa en relevant la tête pour le regarder en face. « Et c'est pour me faire cet outrage que vous vous êtes introduit ici ? Partez, monsieur !» Il se mit à genoux, séparé d'elle par le fauteuil qu'elle venait de quitter. Mais cette pose de soumission respectueuse ne calma pas l'indignation de Ghislaine. « Quelle idée vous êtes-vous faite de moi que vous avez pu admettre la pensée que je vous écouterai ?»« Et vous, quelle idée vous faites-vous de mon amour de trouver un outrage dans son aveu ? Qu'ai-je demandé ? » L'outrage est de vous être introduit dans cette chambre. Il est dans votre aveu, dans votre attitude. Relevez-vous, monsieur, et partez, partez, partez !» À chaque mot, l'accent s'était exaspéré. Ce n'était pas seulement sa pudeur et son honnêteté, sa dignité et sa fierté, que cette brutale déclaration blessait, c'était aussi ses rêves et ses espérances, ses plus chères croyances. Combien souvent avait-elle pensé à la première parole d'amour qu'on lui adresserait? Quels rêves radieux avait-elle fait en les poétisant, en les idéalisant de tout ce que son imagination inventait? Et voilà quelle était la réalité. « Partez !» répétait-elle. « Pas avant que vous m'ayez entendu. » « Je n'ai rien à entendre, je ne veux rien entendre. Cette insistance est odieuse. Si vous êtes un homme d'honneur, ne le sentez-vous pas? Partez !»«
Je ne partirai pas. »
« Eh bien, moi, je pars !» Mais elle n'avait point fait deux pas vers la porte que, se relevant, il se plaça devant elle, les bras étendus.
« Vous ne passerez pas !»
Elle recula.
« Ne comprenez-vous pas que si je me suis décidée à cette résolution désespérée, c'est que je ne suis pas maître de mon amour, c'est lui qui m'a amenée ici contre toute raison, contre ma volonté, c'est lui qui m'oblige à parler. Je vous aime, je vous aime !» « Je vous aime !»«
Mais c'est cela que je ne veux pas entendre !»«
Et moi, c'est cela que je veux dire, redire, répéter. Je vous aime. Et quel mal, quel outrage vous fait mon amour. Il ne demande rien que de ne pas rester ignoré. Vous savez que je vous aime, je vous vois, je suis heureux. »«
Eh bien, je le sais. Partez !»«
Oui, je partirai puisque ma présence ici vous jette dans cet émoi. » Mais pas avant que vous ne m'ayez promis que cet aveu ne changera rien à ce qui est. Je comprends que vous soyez blessé qu'un homme payé par vous, qui est à vos ordres, ait osé lever les yeux jusqu'à vous. Mais si cet homme n'est aujourd'hui qu'un pauvre musicien, l'espérance cependant lui est permise.
Que m'importe tout cela, puisque je ne ferai pas cette promesse. Jamais je ne permettrai qu'un homme qui m'a parlé comme vous venez de le faire se retrouve à mes côtés. Cette fierté que vous invoquez pour vous doit vous faire comprendre la mienne. Elle ne subira pas plus longtemps votre présence. Si vous ne voulez pas partir, quoi qu'il puisse en advenir, je sonne.
Je vous en empêcherai bien.
Alors j'appelle. »
Ils se regardèrent un moment en silence et Ghislaine ne baissa pas les yeux. Il y avait dans son attitude, dans le port de sa tête, dans son regard, une résolution qui surprit Nicétas. Celle qui se tenait droite devant lui n'était plus la jeune fille, la petite fille, l'élève qu'il était habitué à voir depuis un an. Ce qu'elle disait, elle le ferait. Alors, qu'arriverait-il?
« Et si je partais ? » dit-il.
C'était un marché qu'il lui proposait. Elle ne voulut pas comprendre.
« Partez ! » dit-elle.
« Au moins, vous vous souviendrez que je n'avais que le bras à étendre pour vous empêcher de sonner, que je n'avais qu'à vous mettre la main sur la bouche pour que vous ne puissiez pas appeler, et que, cependant, je suis parti. Vous vous souviendrez que je vous aime et ne demande qu'à vous aimer, silencieusement, respectueusement. » Pendant qu'il se dirigeait vers la fenêtre, elle reculait autour du fauteuil. Il enjamba l'appui.
« Vous vous souviendrez !»